Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Bonjour ma chère Ambline.
Bonjour Olivier.
Comment ça va aujourd'hui?
Toujours très heureuse de vous retrouver sur Europe 1.
Eh bien écoutez, nous sommes ensemble sur Europe 1 et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis très content de vous retrouver chaque jour pendant 7h en compagnie de notre chère Ambline.
Et le thème est important aujourd'hui.
Exactement, pendant une heure nous allons discuter ensemble sur Europe 1 de vos expériences de vie, qu'elles soient pleines d'espoir ou plus difficiles. Votre vécu nous intéresse. 11 millions de Français accompagnent un proche en situation de dépendance. Aider son conjoint, un parent ou son enfant au quotidien entraîne un changement de vie total. La loi protège aujourd'hui les aidants familiaux qui travaillent en leur proposant sous certaines conditions un congé de proche aidant qui n'est pas rémunéré. Être aidant, c'est faire face à la maladie, gérer les consultations, les démarches administratives, les situations d'urgence, avec le risque tout de même de s'oublier soi-même. Alors comment affronter ce bouleversement? Les aidants familiaux, c'est notre sujet du jour sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous sommes là pour vous écouter.
Et le 3921, c'est le standard d'Europe 1 pour nous appeler. 3921, 50 centimes la minute. Vous n'hésitez pas également à nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous avons Catherine. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Catherine, bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour Olivier. Je vais bien. Nous allons bien.
Très bien. D'où nous appelez-vous?
De la très belle ville de Nice.
Très belle ville de Nice que je connais très bien. Et je salue les Niçois en passant. Vous avez 52 ans, Catherine, oui. Et vous êtes l'aidante de votre compagnon. De quoi souffre-t-il exactement?
Alors, il souffre de démence, d'une démence assez sévère suite à une encéphalite en 2011. C'est-à-dire que depuis 7 ans, mon compagnon est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Se lever, se laver, s'habiller, manger, tout.
Une maladie fulgurante au point que les médecins pensaient que votre compagnon était condamné, hein, je crois.
Ah oui, il a été quasiment entre la vie et la mort pendant quelques semaines, quelques mois. Mm-hmm. On nous avait dit, les médecins avaient très peu d'espoir. On nous a dit fin novembre, on m'a dit nous ont donné trois semaines.
Oui.
Ça fait 7 ans et il est toujours là.
Il est toujours là et vous. Et oui. Quand êtes-vous devenue l'aidante? Vous êtes devenue son aidante naturellement, tout de suite? Comment ça s'est passé?
Alors, je suis devenue son aidante, entre guillemets, sans le savoir, parce qu'au début, personne ne m'a dit que j'étais l'aidante. C'est moi qui l'ai découvert toute seule.
Vous n'aviez jamais connu ou entendu parler de ce statut d'aidante?
Étonnamment, non. Je n'avais jamais entendu parler de ce rôle, de ce nom d'aidante. Et pourtant, j'ai été autrefois, dans une précédente vie, j'ai été aide-soignante.
D'accord.
Donc, mais non, personne ne m'avait nommée aidante. Et j'ai été son aidante très rapidement, le jour où je me suis rendu compte qu'il n'était plus capable d'assurer son hygiène personnelle. Le jour où il a commencé à mal manger, je l'ai aidé. J'ai pris le relais très progressivement, mais j'ai pris le relais parce que je voyais qu'il n'était plus capable de faire de ce genre de gestes.
Comment vous êtes-vous organisée avec votre travail au départ? Vous étiez encore aide-soignante lorsque c'est arrivé?
Alors non, là, je n'étais déjà plus aide-soignante parce que, pour des raisons personnelles, j'en avais un petit peu assez de porter aide, secours et assistance à mon prochain, étrangement. Et puis, j'ai travaillé dans une grande surface, donc ce qui n'a rien à voir. Et donc très rapidement, on s'est un peu organisé avec la famille au tout début. C'est devenu très complexe. Donc moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris ce fameux congé qui, à l'époque, en 2011, s'appelait le congé solidarité familiale.
Oui, exactement.
Qui est un congé qui permet, si vous voulez, de s'organiser en fait. Pour organiser la suite.
Cette décision, il y a des gens qui déménagent autour de vous, je ne sais pas d'où vous m'appelez.
Alors, malheureusement, je suis sur ma terrasse parce que c'est le seul endroit
calme
de la maison. Okay. Et en face de moi, il y a des travaux.
Je voulais être juste sûr que vous n'étiez pas en danger, simplement.
Non, du tout, je suis confortablement installée sur ma terrasse.
Bon, très bien. Pourquoi avoir pris cette décision de démissionner donc directement, finalement? C'est l'urgence de la situation qui vous a poussé?
Alors, j'ai démissionné au bout de 6 mois. Ce congé est de 2 fois 3 mois. Il est 3 mois renouvelable, 1 fois 3 mois. Donc, au bout des 6 mois, donc là, on était en juin 2012, où effectivement, j'avais le choix. C'est-à-dire, soit je remplissais des dossiers pour faire des demandes d'aide à domicile, et j'employais des aides à domicile et je continuais à travailler.
Oui.
Soit je me débrouillais moi-même et je le faisais moi-même.
Ce qui fait que aujourd'hui, si on doit faire le bilan, comment vous vivez financièrement ? Est-ce que vous bénéficiez toujours de ce qui accompagne cette aide ?
Non, de toute façon, ce qui accompagne cette aide financièrement, c'est rien. Il y a rien.
C'est combien ?
Ce congé n'est pas
c'est combien justement
ce...
Je me demandais. C'est rien du tout.
Rien. Ce congé n'est pas rémunéré. C'est
d'accord.
Juste une suspension. C'est juste une suspension du contrat de travail, ce qui permet à l'employé de retrouver son contrat de travail et son poste à l'issue de ce congé.
Mmh, d'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est juste, c'est le seul, enfin, c'est un des avantages, c'est de pouvoir retrouver son poste à l'issue des 6 mois.
Si je vous posais cette question, c'était vraiment pour que les auditeurs prennent bien conscience du mot congé, hein, puisqu'on a l'impression qu'avec le congé, dans ce type de situation, s'accompagne une aide financière. Or, il n'y en a pour l'instant aucune.
Alors, il y en a dans certaines conditions qui sont très restrictives, mais il y en a quand même. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse.
Oui.
Il y a certaines conditions qui sont... on peut avoir ce qu'on appelle une majoration de tierce personne, mais qui... Alors, là aussi, c'est très curieux, c'est-à-dire que on peut être un petit peu rémunéré quand même pour certains actes, mais à hauteur entre 3,50 euros et 5 euros
oui,
de
donc,
l'heure.
Donc pas grand-chose, hein, pas grand-chose
c'est
pour
vrai,
ne pas dire
c'est
rien.
Vraiment,
c'est un engagement fort d'être aidant. Est-ce qu'il vous arrive de craquer ?
Oui et non. Oui, c'est un engagement fort. Oui, il m'est arrivé de craquer, mais c'était il y a très longtemps. Fort heureusement, je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait que je m'entoure de personnes ressources.
D'accord.
Et qu'il fallait qu'il faut surtout pas rester seul, bien entendu. D'autant que là, mon compagnon est quand même atteint d'un lourd handicap psychique. Et là, c'est vraiment très compliqué parce que je ne peux pas négocier avec lui certaines choses. Et comme il est très opposant, le quotidien peut être très difficile.
Mmh. Nous aborderons justement l'importance hein, de l'entourage et des aidants, hein, puisque tout ça, c'est une chaîne humaine hein, finalement, puisque il vaut mieux être aidé aussi lorsqu'on se retrouve dans votre situation. Vous restez avec nous en ligne, hein, surtout Catherine. Dans un instant, nous serons avec Louisa.
Europe 1.
Vous partagez ce que vit Catherine, vous témoignez au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle des aidants familiaux. Vous accompagnez un proche régulièrement, vous lui apportez un soutien quotidien en plus de votre vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez aussi nous écrire, réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous allez retrouver dans un instant Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler par SMS. N'hésitez pas à nous écrire 7-39-21. Vous tapez E1 suivi de votre message. Nous discutons avec vous des aidants familiaux. Vous accompagnez au quotidien un parent, un enfant, un proche en situation de dépendance.
Et nous avons eu Catherine au 39-21 qui nous expliquait que déjà depuis 11 ans, hein, elle s'occupe de son mari.
C'est très long.
Et qu'elle est assez seule finalement. Mmh. On reviendra encore sur l'entourage et sur l'aide de l'entourage. Nous sommes maintenant avec Louisa. Bonjour Louisa, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour,
comment allez-vous ?
Merci.
D'où nous appelez-vous Louisa ?
Alors, de Paris et je suis au travail actuellement.
Vous êtes au travail. Que faites-vous dans la vie ?
Je travaille dans la communication réseaux sociaux.
D'accord. Alors, en juin dernier, Louisa, vous êtes devenue aidante de votre maman.
Oui. Dans
quelles conditions cela s'est-il passé ?
En fait, elle s'est blessée au pied et cette blessure s'est infectée gravement parce qu'elle a découvert lors de cette hospitalisation qu'elle était diabétique.
Ouais.
Et malheureusement, lorsqu'on est diabétique et qu'on a une blessure au pied, ça peut très vite s'aggraver. Et ça s'est gangréné, en fait, tout simplement. Et donc, elle a été, à la suite de plusieurs épisodes, amputée d'abord de quelques orteils et ensuite de la moitié du pied.
Et quel âge avait votre maman lorsque c'est arrivé, ça ?
66 ans.
66 ans. Comment vous avez fait immédiatement avec votre travail ? Vous avez été obligé de vous occuper de votre maman ? Il n'y avait personne pour s'occuper d'elle ?
Alors, il y a mon papa, mais alors, mon papa était complètement dépassé par la situation. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était dans le déni complet. Alors, on m'a expliqué que c'était normal, que ça arrivait et que souvent les hommes, je suis désolée d'y arriver, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, notamment à la Fédération des diabétiques, que les maris, les fils, les frères, les pères, ont cette réaction parfois de déni, de fuite, et vont plutôt se reporter sur les femmes de la famille, donc les filles, les sœurs, les tantes, etc. Et donc, j'ai tout pris en charge au niveau au moins du suivi médical, de la paperasse, de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut rencontrer le médecin pour qu'il nous explique, parce que c'est pas une évidence dans un hôpital que le médecin explique la situation à la famille. Il va le faire peut-être si on arrive à le croiser, mais c'est pas facile.
Et donc, dans votre cas, être aidante au quotidien, cela se traduit comment ?
Ça s'est traduit d'abord à l'hôpital, effectivement, à venir régulièrement et à gérer les allers-retours, parce qu'elle est passée d'hôpital en hôpital, d'hôpital en centre de rééducation, de suivi. Vous savez, quand les chambres doivent être libérées rapidement, on nous dit qu'il faut sortir et donc il faut trouver un centre parce qu'elle n'est pas encore prête à rentrer à la maison. Donc il y a eu 3 transferts, donc il a fallu gérer tout ça. Et ensuite, lorsqu'elle est vraiment rentrée à la maison suite à l'amputation définitive, on nous a dit maintenant vous rentrez à la maison et vous gérez le quotidien. Donc l'arrivée des infirmières.
Gérer le quotidien dans ce type de situation, je suppose que tout doit changer avec un père, comme vous le précisiez, débordé. À votre travail, est-ce que vous avez senti que on comprenait cette nouvelle situation qui se présentait à vous ?
Je l'ai expliqué tout de suite. J'ai pas voulu me cacher parce que ça pouvait se sentir aussi que parfois je devais sortir vite pour prendre un coup de fil et donc ça pouvait perturber aussi ma concentration. Donc j'ai dit voilà, je suis dans une situation compliquée en ce moment, donc parfois je sortirai d'une réunion en trombe parce qu'il y aura une urgence téléphonique et je serai obligée de prendre ce coup de fil. Donc merci de votre compréhension, et dès que je peux je pose des congés pour être auprès d'elle, et ils ont été compréhensifs. Et du coup j'ai posé des congés, ils ont été validés. Donc ça, je remercie ma boîte, parce que c'est pas le cas partout.
C'est sûrement loin d'être le cas partout. Est-ce que vous vous êtes senti seul depuis que tout cela est arrivé?
Je me suis sentie seule parce que j'ai 5 frères, et bêtement je me disais
5 frères.
Avec moi ça fait 6, il y a 7 jours dans la semaine, on devrait pouvoir s'organiser plutôt bien. Je voyais comme ça, j'idéalisais un peu, et en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais compter que sur l'un de mes frères, le plus petit, le petit dernier, et que tous les autres s'en lavaient un peu les mains. En fait, pour eux c'était pas leur problème, ou qu'ils pouvaient pas s'organiser, ils n'arrivaient pas à trouver de solution pour venir ne serait-ce qu'un jour pour aider maman, qu'elle était en fauteuil roulant à ce moment-là. Donc il fallait l'aider pour la toilette, il fallait l'aider pour aller d'une pièce à l'autre, il fallait être présent.
Et je suppose que dans ce cas-là, les garçons, comme vous dites, il y a une fille qui, c'est la fille qui doit faire ça. C'est un réflexe. Depuis le 15 août, votre mère peut enfin commencer à remarcher seule. Vous avez entamé de nouvelles démarches, je crois, pour avoir un appartement adapté au fauteuil roulant. Est-ce que c'est difficile d'obtenir ce type de logement ?
Alors oui, parce que ça commence par une démarche de déclaration de handicap à la maison des handicapés du département où on est. Et là, j'ai découvert le dossier qu'il fallait faire, je l'ai rempli, et il lui précisait noir sur blanc, votre dossier sera traité sous 4 mois. Et lorsque j'ai appelé le bailleur de ma mère, ils m'ont dit, très bien, lorsque vous aurez la validation de la maison des handicapés, qui constate ce handicap, qui l'officialise, nous pourrons effectivement envisager de mettre votre mère sur une liste d'attente qui peut être longue. Très bien, et c'est-à-dire, on a dit, ça peut être 3 ans à 4 ans d'attente, il n'y a pas de priorité particulière. Après, le handicap, plus il est important, bien sûr, plus peut-être ça va plus vite, mais on a dit, attendez-vous à ce que ce soit très long.
Et du coup, ça a pris combien de temps ?
Le dossier ou le...
L'obtention, est-ce qu'elle y est dans cet appartement ou ça n'est toujours pas fait ?
Non, on est toujours dans l'ancien appartement et on attend la validation de ce dossier qui est parti au mois d'août parce qu'il fallait récupérer les dossiers médicaux, les comptes rendus de l'hôpital. Le compte rendu, il n'arrive pas en 2 jours, il arrive en 1 mois. Ça est toujours un peu long. Donc en attendant, elle, et ça c'est la chose positive par rapport au témoignage de Catherine, c'est que elle commence à aller mieux. Il y a un mieux possible et j'ai l'impression, et je lui souhaite, qu'elle pourra peut-être remarcher avec une chaussure adaptée à son amputation, peut-être plus vite qu'elle n'aura de nouvelles d'un appartement aux normes.
Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Catherine, qui est toujours avec nous, parce que dans quelques instants, nous allons parler avec Florence Leduc, qui, elle, est présidente de l'Association française des aidants. Et vous allez toutes les trois, après avoir écouté Florence Leduc, bien évidemment, confronter vos expériences d'aide-soignante depuis 11 ans pour Catherine et pour vous, Louisa, toute jeune aidante.
Europe 1. Vous donnez de votre temps, de votre énergie sans relâche et bénévolement pour aider un proche malade, un proche porteur d'un handicap. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous le 3921, écrivez-nous par SMS 739-21. Vous envoyez E1 suivi de votre message. À tout de suite.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous de ces aidants. Vous, nous, non professionnels, qui accompagnent à la maison une personne fragile, un parent âgé, un proche malade. Vous êtes aidants familiaux, venez témoigner, partager avec nous votre expérience sur Europe 1. On vous attend avec Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où, Florence?
Alors, moi, je suis à Rueil-Malmaison.
À Rueil-Malmaison. Alors, vous êtes, comme je le rappelais, présidente de l'Association française des aidants. On sent beaucoup de sacrifices dans les expériences que nous venons d'écouter de Louisa et de Catherine. C'est inévitable lorsqu'on est aidant, de cette notion de sacrifice. On sait que notre vie va changer irrémédiablement.
Alors, on peut tout à fait éviter d'être dans le sacrifice. Pour autant, avant de pouvoir être dans cette posture de choix, de la bonne position en tant qu'aidant, en conciliant le travail, en conciliant la vie amicale, la vie familiale, ça prend un petit peu de temps. D'ailleurs, Catherine nous disait qu'elle était devenue aidante sans le savoir. C'est insidieux, petit à petit, il y en a un qui ne va pas bien chez nous. On fait un petit peu de ci, un peu de course, un peu essayer d'aller voir le médecin. Et petit à petit, effectivement, on rentre dans quelque chose que beaucoup appellent un engrenage. Alors, cet engrenage, ce qu'a fait Catherine, c'est très intéressant. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 6 mois, même si par ailleurs, ça a beaucoup d'inconvénients sur le plan financier. Mmh. Ça lui a permis de savoir pour elle-même comment elle souhaitait se positionner. Et du coup, effectivement, ce choix du positionnement personnel qui peut aussi faire appel à des intervenants professionnels comme les infirmières, aides-soignantes ou aides à domicile, etc. Oui. Mmh. Ça permet d'être moins sur le sacrifice parce qu'à un moment donné, on a fait un choix. Et par ailleurs, elle a dit également quelque chose d'important, elle s'est entourée pour ne pas rester seule. Et Louisa a parlé également de cette question. Si on est entouré, si on a des proches, effectivement, on est moins dans le sacrifice parce qu'on peut partager quelque chose.
On peut sûrement réfléchir plus sereinement à la situation, en tout cas partager les solutions possibles et puis trouver aussi de l'aide, parce que ça n'est pas parce qu'on se retrouve aidant qu'on ne peut pas soi-même demander de l'aide à l'entourage.
Alors bien évidemment qu'on peut demander de l'aide, et d'ailleurs il faut le faire. Parce que quand vous avez posé la question à Catherine en disant « Vous est-il arrivé de craquer ?», elle a été très pudique par rapport à ça. Quand on n'est pas aidé, la vie peut devenir très difficile et ça n'est pas fait pour ça. Pour autant, on a aujourd'hui une société qui peut être très assignante. C'est à toi de le faire. Et donc, du coup, quand c'est à l'autre de le faire, on se sent assigné. Et c'est là que la notion de sacrifice peut arriver quand on n'a pas eu la possibilité de poser les termes de ce qu'on est en possibilité de faire. Et c'est ça qui est vraiment important.
Justement, Florence, peut-on refuser d'être aidant sans se sentir coupable si on ne se sent pas capable de l'être?
J'ai vu beaucoup de gens qui me disaient qu'ils se sentaient coupables. Pour autant, j'oserais dire que ce qui est coupable, c'est d'assigner les gens à une fonction qu'ils ne peuvent pas assumer. Mmh. Et on le trouve beaucoup. Elle existe toujours, cette pression. On entend beaucoup. Je voyais une femme hier me dire quand mon enfant est très malade et j'ai décidé de travailler à mi-temps, mais j'ai décidé de continuer à travailler. Et ma famille et ma belle-famille me disent « Tu sacrifies ton enfant ». c'est difficile à entendre.
Et comment expliquer que beaucoup plus de femmes aujourd'hui se retrouvent aidantes, comme Louisa qui a 5 frères et qui se retrouve être la seule à aider sa maman. Comment l'expliquer?
Ça date de très longtemps. On en est encore là. Et ça fait partie de ce que j'appelle une société assignante. Pour autant, je vais défendre un tout petit peu les hommes, parce que de plus en plus, on trouve aussi des hommes qui sont aidants, plus particulièrement dans la population âgée, puisque les hommes ont la chance de vivre un petit peu plus longtemps, mais ça peut aussi valoir d'être proche aidant de son épouse. On est encore dans une société assez assignante et qui fixe aux membres de cette société des rôles sociaux qui viennent de loin, qui viennent de longtemps et qui peut parfois ne pas laisser la place à choisir ce que l'on peut et ce que l'on veut. Et ce choix permet à chacun de se sentir dans sa juste place. Et la relation d'aide à l'autre se fait aussi dans quelque chose qui n'est pas trop la bête.
En tout cas, force est de constater que quand l'épreuve arrive, beaucoup de femmes se retrouvent confrontées et obligées de d'occuper cette situation, en tout cas de se retrouver aidante. Florence, vous restez en ligne avec nous. Vous allez nous expliquer comment vivre au mieux le fait d'être aidant. Nous allons justement reprendre la discussion avec Catherine et Louisa qui sûrement auront pas mal de choses à vous demander.
Et on a reçu un SMS au 739-20. C'est un homme qui doit nous dire: ma femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'ai été présent pour elle les premières années quand la maladie a atteint un stade avancé. Il était impossible de continuer. Un vrai parcours du combattant a commencé puisque la maladie était très très lourde et on se sent démuni. À ce moment-là, les instituts spécialisés sont extrêmement chers, mais on ne peut plus garder une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
à la
maison.
On va sûrement parler d'argent aussi parce que c'est incontournable dans cette situation.
Europe 1. Vous donnez de votre temps, de votre énergie sans relâche, bénévolement, pour un proche malade, pour un proche porteur d'un handicap. C'est un engagement financier également. On en parlera. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous n'hésitez pas également à nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1, par SMS 739-21 E1, suivi de votre message. À tout de suite. Entre 15h et 16h, vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Venez partager vos expériences de vie sur notre antenne 3921 pour nous appeler, pour venir nous donner votre avis, venir nous raconter votre histoire. Vous êtes aidants familiaux, vous aidez au quotidien, financièrement, physiquement, moralement, l'un de vos proches qui se trouve dans une situation de dépendance. On vous attend 3921. Vous allez retrouver Olivier Delacroix face au handicap de l'un de vos proches. Venez nous raconter votre expérience de vie. Le 3921, le standard d'Europe 1, nous parlons des aidants familiaux cet après-midi avec vous, Olivier Delacroix.
Et ils sont, je le rappelle, 11 millions de Français à être dans ce cas d'aidants, dont Catherine et Louisa qui sont toujours en ligne avec nous. Catherine, justement, d'abord, je voulais me retourner vers Florence, oui. Parce que nous abordions justement cette question d'immédiateté. Lorsqu'on entend Louisa, quand on écoute Catherine, tout de suite, elles se sont retrouvées progressivement ou subitement à aider sa maman, son mari. Est-ce vrai finalement que, comme le disait Louisa, on devient simple, ça devient la solution la plus simple et surtout la moins chère que de faire appel à du personnel spécialisé?
Il y a autant d'aidants qu'il y a de situations différentes. Donc effectivement, c'est très difficile. Aujourd'hui, sur la question des soins à domicile, sur la question de l'hospitalisation à domicile, sur la question de l'aide à domicile, il y a aujourd'hui des aides financières, évidemment, en fonction de la situation de chacun. Il faut le fait d'être aidant. Aujourd'hui, on sait que ça coûte. Ça coûte de l'argent aux aidants parce qu'il y a des surcoûts à payer, le reste à charge de l'aide à domicile, etc. Il faut bien regarder à chaque fois les tenants et les aboutissants. L'argent n'est pas une motivation en soi pour devenir aidant et ne pas faire appel à des intervenants professionnels. Il faut aussi penser ce que les intervenants professionnels, d'ailleurs, savent faire, c'est leur métier, mais également ce qui permet au proche aidant de rester à l'autre ce qu'il est. Si je suis l'aidante de mon père, je ne suis pas son infirmière, je ne suis pas son aide-soignante. Mmh. C'est très difficile à vivre. Mmh. Donc il faut peser tout ça, et il faut un petit peu de temps et il faut être entouré.
Ouais, et ça permet de rester un peu soi-même, parce que je suppose que dans des situations, certains et certaines peuvent s'oublier complètement. Justement, Catherine, je le rappelle, vous accompagnez votre mari depuis plus de 11 ans. Quel conseil donneriez-vous à Louisa qui entame à peine sa vie d'aidante familiale?
Alors, quel conseil je lui donnerais?
Oui.
De s'entourer, de ne pas s'oublier, de ne pas y laisser trop de plumes. Voilà, effectivement. Et que, bon, Louisa le disait, que progressivement, sa maman va aller de mieux en mieux et va arriver, heureusement pour elle, à s'autonomiser. Donc, je veux dire, l'empreinte de l'aidante va peut-être s'alléger, et la charge mentale de Louisa va aussi progressivement s'alléger. Mais voilà, d'être toujours vigilante à ne pas s'oublier et à ne pas trop sacrifier.
Et être vigilante à garder, à préserver un semblant de vie, c'est ce que vous entendez ?
Même à préserver une vie complète.
Une vie complète.
Pourquoi un semblant ? Mais pourquoi un
semblant ? Non, je dis un semblant parce que une vie complète, lorsqu'on a un proche qui, bien évidemment, vit une situation très grave, j'imagine qu'il est difficile de garder la même vie. Elle change obligatoirement.
Donc, ah oui.
Louisa, vous n'avez pas peur à terme d'être obligée de démissionner pour accompagner votre maman. Vous parliez quand même de l'amélioration de sa situation. Donc, vous êtes à quelle phase là
on est parti de loin. On est quand même parti de quelqu'un qui est traumatisé par une amputation et qui ne sait pas si elle pourra remarcher. Et les médecins disaient oui, peut-être que ça devrait aller mieux, mais on se donne une date. On se dit que c'est peut-être d'ici décembre ou janvier 2019. Donc là, on nous dit ça en juillet. Pour nous, c'est la fin du monde. Elle, c'est quelqu'un qui conduit beaucoup, qui adore conduire, qui se déplaçait, qui était très autonome. Donc le monde s'est effondré. Mais on est sorti de là. Et puis progressivement, avec les exercices avec l'infirmière au quotidien, le 15 août, miraculeusement, elle s'est mise à pouvoir se tenir debout sur ses deux pieds sans avoir mal. Et j'en ai presque pleuré parce que je me suis dit... Ça veut dire que c'est possible.
J'allais justement venir là-dessus avec Florence et lui parler des aidés, comme votre maman Louisa, parce que ces aidés, il faut en parler aussi dans ce thème. Comment vivent-ils pour la plupart du temps cette situation, tout à coup d'être dépendant de l'autre?
C'est déjà une très bonne idée d'en parler, parce qu'effectivement on parle beaucoup des aidants, mais effectivement il y a une personne derrière, et pour certaines personnes c'est extrêmement difficile de voir soit le sacrifice, mais on espère ne pas arriver à la question de sacrifice, mais de donner ce temps, de donner cette énergie. Il y a quelque chose qui peut s'installer comme la dette, et c'est très important que les proches aidants et les personnes qu'ils accompagnent puissent parler de ça,
ouais.
Et que le proche aidant puisse aussi donner son avis.
Partager cela.
Il n'a pas envie que l'autre est chez les aidants. On a une santé plus mauvaise que les autres. On a des finances qui peuvent être en péril. Surtout si on arrête de travailler, on fait comment pour vivre quand on arrête de travailler? Et donc, il est vraiment important de mettre en place ce dialogue avec les personnes qui bénéficient de l'aide pour qu'elles puissent aussi donner leur avis et éventuellement soulager la personne aidante, éventuellement de sa volonté de tout faire, de faire au mieux, au risque de s'écrouler parce qu'elle ne va pas pouvoir tenir. Donc c'est tout un équilibre extrêmement fragile,
ouais,
qu'il faut tenir aussi en se faisant conseiller, en se faisant aider par des associations.
Échanger entre aidant et aidé pour éviter aussi qu'une certaine forme de culpabilité s'installe. Merci Catherine, merci Louisa pour vos témoignages et vos éclairages. Merci de nous avoir fait partager vos expériences. Florence, vous restez encore avec nous car dans quelques instants, nous allons accueillir Marina. Elle est aidante de son frère, mais elle aussi est tombée malade.
Et on a reçu un SMS au 739-21. J'ai 65 ans, je suis dans une situation de handicap et je suis aidée par ma femme tous les jours. J'ai l'impression de perdre mon épouse. On parle des aidés là, évidemment. Elle est devenue mon infirmière à domicile. Je lui en suis infiniment reconnaissant, mais je souffre aussi pour elle de l'avoir obligée de s'occuper de moi. quotidiennement et de s'oublier parfois.
Europe 1.
Vous aidez l'un de vos proches, une personne âgée, une personne en situation de handicap, un conjoint, un enfant malade, un soutien quotidien. Vous êtes aidé. Venez témoigner aussi à l'antenne d'Europe 1. Vous appelez le standard le 3921. Vous pouvez nous écrire vos messages par SMS 739-21. Vous envoyez E1 suivi de votre message, 65 centimes, plus coût du SMS et Twitter, hashtag Europe 1. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h. Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui les aidants familiaux, des proches d'une personne en situation de dépendance. Ils s'occupent d'elle tous les jours, souvent cumulent leur vie personnelle et professionnelle. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Nous avons eu avec nous Catherine et Louisa qui nous ont livré leur expérience. Florence, la présidente de l'association française des aidants, ce qui veut dire que déjà cette association existe et qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'on traverse ce genre de situation, à prendre contact déjà avec cette association et profiter de tous les conseils qu'on peut donner tout de suite. Nous sommes maintenant en ligne avec Marina. D'où nous appelez-vous, Marina ? Bonjour.
Bonjour Olivier et bonjour à ceux qui sont en ligne. Je vous appelle de Valence, dans la Drôme.
Dans la Drôme, Valence, très jolie ville, bien évidemment. Vous avez quel âge, Marina ?
Alors moi j'ai 69 ans.
Oui.
Et je m'occupe donc de mon frère qui a 10 ans de moins, c'est mon frère cadet qui a 59 ans, qui a eu un grave accident en 2008. Donc vous voyez, ça commence à dater un peu.
Oui.
Trauma crânien lourd avec un pronostic vital engagé au départ. Hein, donc c'était une situation extrêmement délicate.
Qui s'est soldé par, quelle situation, son état
C'est un traumatisé crânien relativement lourd avec des troubles cognitifs, des troubles frontaux et temporaux, c'est-à-dire c'est le comportement et la mémoire.
D'accord, donc incapable pour lui de vivre une vie seule déjà.
Voilà, je suis donc sa tutrice parce qu'il ne peut pas, se gérer. Alors j'entendais parler tout à l'heure des intervenants, si vous permettez, hein. Et c'est extrêmement difficile, et j'en parlais avec Catherine, que je connais bien, parce qu'on a constitué un groupe de soutien.
Oui.
Et donc, c'est extrêmement difficile d'avoir une personne qui comprenne et l'aidant, et la personne aidée, et surtout le type de pathologie. Voilà, l'articulation et la coordination entre les deux est extrêmement difficile, en particulier avec les associations.
Oui.
Qui veulent avoir un peu la main mise sans écouter les dents, comme si on était une personne à gommer, à effacer, où on n'y connaît rien. J'ai entendu, on devient aidant sans le savoir, et on continue.
Et vous donc, je suppute que vous ne vous êtes pas laissé gommer. Comment vous êtes-vous organisé vous-même ?
Alors, moi j'étais déjà avec une pathologie assez lourde, puisque j'ai une polyarthrite rhumatoïde sévère, enfin, voilà. Donc,
qui était déjà en 2008,
qui était déjà active. Donc, on est une fratrie de 6. Je suis la seule, entre guillemets, disponible ou célibataire, je ne sais pas comment dire. Il y a eu une difficulté importante. Et quand Patrice a été interviewé par les experts, le seul prénom qu'il donnait, c'était le mien, pour que je m'occupe de lui. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans cette fratrie. Et personne ne s'est bousculé non plus pour s'occuper de lui. C'est pas évident de prendre en compte quelqu'un. Il est quand même resté, il a eu un mois de coma, 9 mois de rééducation, centre de rééducation, et ensuite il a bien fallu le prendre en charge. J'étais soit l'internement,
oui.
Et ça à 48 ans c'était pas envisageable pour moi que mon frère soit interné, parce qu'il n'était pas responsable de cet accident du tout. Et voilà, donc j'ai décidé de poursuivre et de m'engager auprès de lui, malgré cette pathologie qui est une pathologie de douleur. Bon, j'ai un traitement, mais voilà.
Je comprends bien la situation, tout en étant malade vous-même, ça devait être particulièrement lourd. Restez avec nous, Marina, parce que nous allons avoir maintenant Djalila, qui elle aussi est aidante, elle aide son père. Bonjour Djalila.
Oui, bonjour monsieur.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. D'où vous nous appelez, Djalila ?
Je vous remercie. Je suis très honorée d'être avec vous pour en parler justement. Je vous appelle de Lille,
Lille, d'accord. Vous aidez donc votre père ?
Oui, exactement.
Et vous avez la même maladie que lui ?
Oui, alors on a une maladie rare, qui dit maladie rare, qui a été très très difficile à diagnostiquer.
Oui.
Et on a mis plusieurs années à le savoir. Alors, je le sais pour mon père que depuis 15 jours et pour moi à peu près depuis un mois. Mais je me bats depuis des mois pour essayer de savoir justement de quelle maladie on est atteint.
Et vous ne savez toujours pas ?
Si, je le sais depuis. C'est la fièvre méditerranéenne. C'est une maladie qui entraîne des douleurs au niveau musculaire, qui entraîne des dépôts d'une substance qui s'appelle l'amylose et qui entraîne une insuffisance rénale.
Et qui est une maladie rare.
Exactement.
D'accord. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important pour vous, donc, c'est de vous occuper de votre père, parce que vous avez été infirmière, donc je sais que vous avez ça en vous, hein, cette vocation.
C'est ça, exactement. On ne fait pas ce métier par hasard. Et mon papa, je m'en occupe que depuis 4 ans, parce que je ne le connaissais absolument pas avant. En fait, on a été élevé par notre maman, on n'a absolument pas connu notre papa.
Oui.
Et en fait, il a fait un AVC, et je l'ai connu en 2014. Donc ça s'est imposé à moi, mais avec grand plaisir, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore toutes mes... je faisais tout, je travaillais, j'avais toutes mes capacités, on va dire, physiques.
Mais alors, justement, comment faites-vous aujourd'hui avec la fatigue de votre propre maladie pour assumer votre père et puis cette vie qui a changé depuis que vous avez vous aussi cette maladie ?
C'est ça. Donc depuis que j'ai retrouvé mon père en 2014, il a été donc hospitalisé. Il a fait 6 mois de rééducation. Pareil, j'entendais parler tout à l'heure de centre de rééducation. Les dents est très présent là-dedans parce que après, c'est vrai qu'on n'a pas aussi beaucoup parlé de tout ce qui est rôle médical, les accompagnements dans les hôpitaux, le rôle des aidants là-dedans est très important. Il nous prend aussi énormément de temps. Et quand c'est des personnes âgées, ils ont forcément des maladies chroniques.
Oui.
Qui dit maladie chronique, ça veut dire diabète, hypertension. Moi, dans le cas de mon papa, il est dialysé, donc le rôle de l'alimentation est très important. Et puis, il va en dialyse 3 fois par semaine. Et après, il y a la coordination avec les soignants. Quand la personne est à domicile, il y a le kiné, les infirmiers. Et ça, le rôle de la famille, de l'aidant, est très important parce que c'est nous qu'on prend les rendez-vous, c'est nous qu'on appelle pour savoir comment ça se passe. Donc, tout ça nous prend énormément de temps dans la journée, en fait.
Jalila, j'ai bien compris combien cela devait entraîner un changement de vie et surtout une occupation presque à plein temps. Je note simplement, avant de vous quitter, que vous n'avez pas parlé de vous. Hein. J'ai essayé de vous faire parler de vous, mais impossible de parler de votre surmenage, hein, de votre propre fatigue, parce qu'on a l'impression que c'est d'abord votre père et que n'oubliez pas de vous occuper de vous, en tout cas. Mille merci pour votre témoignage. Merci à Marina aussi de nous avoir fait partager son expérience.
Et on a un SMS de Anthony au 739-21 qui nous dit « Bonjour, je ne connais pas la situation géographique de Louisa et de sa mère, hein, Louisa qui a témoigné un petit peu plus tôt, mais parfois il y a une notion de distance à prendre en compte pour aider sa famille, ce qui aussi complique parfois les choses. »
Europe 1.
On parle des aidants familiaux, ces personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance. Venez partager avec nous votre expérience, vous nous appelez le 39-21, 50 centimes la minute, vous envoyez vos messages, vos commentaires par SMS 739-21-E1 suivi de votre message, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1. A tout de suite avec Olivier Delacroix. Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des aidants familiaux cet après-midi sur Europe 1. Vous aidez au quotidien l'un de vos proches, une personne âgée, un conjoint malade. N'hésitez pas à nous appeler le 3921 sur Twitter avec le hashtag Europe 1 pour nous écrire. Europe 1 vous offre cette semaine un voyage exceptionnel à New York pour assister au showcase privé de Diana Krall et Tony Bennett, joué demain matin dans la matinale de Nikos Aliagas entre 7h et 9h. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Nous discutons cet après-midi des aidants familiaux.
Et nous accueillons maintenant Jean-Luc sur l'antenne de Repin au 3921. Jean-Luc, vous avez 65 ans.
Oui.
Vous avez été aidant pendant 10 ans avec votre maman. Merci de nous faire partager votre expérience sur Europe 1. Et vous avez perdu votre maman et c'est quelque chose que vous avez très mal vécu. Mais par rapport justement à cette situation d'aidant, parce que ces 10 ans passés à aider votre mère vous ont marqué profondément.
Oui. Parce que je vais vous dire que elle était dans un état pitoyable. Elle venait d'avoir une opération de la carotide. Donc il fallait absolument un établissement spécialisé. Mais comme elle avait par ailleurs d'autres maladies, comme le diabète et tout ça, elle ne pouvait pas avoir une nourriture correcte. Donc j'ai quitté mon travail pour descendre en urgence, parce que je suis de Paris, de Boulogne-Billancourt exactement, et je suis descendu en urgence pour la convalescence de ma maman. Et je dois dire que dans un premier temps, ça s'est très 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 bien passé. Donc nous avons eu le passage des infirmières, que j'ai dû réguler. Après, j'ai fait passer le médecin, que j'ai dû réguler. Et là, j'ai vu ma mère, si vous voulez, un petit peu, comment dirais-je, ressuscitée. Ça m'a fait chaud au cœur, vous ne pouvez pas savoir.
Et c'est 10 ans, c'est la dernière question que je vous poserai, parce que malheureusement, le temps presse. C'est 10 ans des dents avec votre maman. Qu'en tirez-vous de ces 10 ans?
Alors, j'aurais voulu développer.
Oui, mais on manque profondément de temps, Jean-Luc. Pardonnez-nous. Et nous retraiterons, vu le nombre d'appels que nous avons reçus au 39-21, on aura encore l'occasion d'en parler. Mais très brièvement, dites-moi.
Je vais faire très vite. Je vais vous dire, on a grimpé une montagne, on a réussi, mais elle était très heureuse et très en forme, et après ça a descendu, à tel point que j'ai dû faire mettre un lit médical, que j'ai dû faire passer, si vous voulez, le kiné. Ouais. Le kiné qui ne pouvait pas passer plusieurs fois par jour et qui m'a appris les manipulations. Voilà.
Bon, vous êtes finalement devenu aidant et à ce que je comprends, vous avez appris les soins. Et c'est ce qu'on retirera de votre témoignage, Jean-Luc. Mille pardons de devoir l'interrompre, mais nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Grâce à vous, nous avons appris, je crois, la pleine mesure de ce que veut dire aider. Aidant au quotidien, une situation qui peut se présenter n'importe quand. Dans cette épreuve, en tout cas, le plus difficile est de réussir à ne pas s'oublier, à accepter l'aide des autres, des équipes médicales, des associations. Il ne faut pas hésiter à tirer la sonnette d'alarme lorsque ce rôle d'aidant prend toute la place. Et on l'a vu, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez continuer à en débattre, bien évidemment, de ce sujet sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Twitter, hashtag Europe 1 et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.